Je le garde comme volé avec elle, comme elle a pris l'impression.
Bonsoir, élection 2011, la réunion interinstitutionnelle tenue le week-end a décidé d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Pour ce faire, 7 points ont été retenus, notamment la publication du calendrier électoral, la révision du fichier électoral et la désignation et l'installation des membres de la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Comment analyser la décision de la réunion interinstitutionnelle? Trois invités participent à cette émission, professeur Jean-Louis Tambo, directeur de cabinet adjoint du vice du ministre en charge de l'intérieur et sécurité. Bonsoir professeur. Moïse Nyarugabo, sénateur et membre du RCD. Bonsoir honorable sénateur.
Bonsoir.
Professeur Moïla Kiyembe, directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Il est en ligne. Bonsoir professeur.
Bonsoir.
Vos réactions nous sont déjà parvenues. Bernard Andeka de Guémena à l'Équateur. Est-ce que le gouvernement a déjà budgétisé la somme pour l'organisation des listes d'élections d'ici 2011? Ne nous dira-t-il pas encore que le budget ne le permet pas? Alfred de Lubumbashi au Katanga. Je pense que cette décision n'est qu'une façon de calmer l'opinion, d'autant plus que nos dirigeants ne respectent ni les lois ni leurs propres paroles. Je me demande ce qui garantit la mise en application de cette décision. Est-ce que le prétexte de manque de moyens ne se posera-t-il pas? Merci de nous suivre à Kalini dans la province du Katanga, 65.0 FM et partout au monde sur RadioCapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission, votre émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 678 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
La question des prochaines élections était au menu des travaux de la réunion interinstitutionnelle présidée par le président de la République le week-end à Kinshasa. Selon le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, cette réunion a débouché sur la décision de la tenue de ces élections dans les délais constitutionnels. Toujours selon Adolphe Lumanu Bonansifou, dans son compte-rendu fait samedi soir sur la télévision nationale, ces activités principales sont retenues dans un ordre chronologique. Parmi ces activités, la publication du calendrier électoral, la révision du fichier électoral et la désignation et l'installation des membres de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. On écoute Adolphe Lumanu Bonansifou, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, nous parler de la révision du fichier électoral. Ces propos sont recueillis par Emmanuel Mbanda.
Concernant les échéances électorales, les élections doivent se tenir dans les délais attendus conformément à la Constitution. Au sujet des opérations préélectorales, électorales et post-électorales, sept activités importantes sont à réaliser dans l'ordre ci-après. 1. La publication du calendrier électoral. 2. La révision du fichier électoral. 3. La désignation et l'installation définitive des membres de la CENI. 4. L'inscription des candidats. 5. Les campagnes électorales. 6. Les scrutins électoraux. Et 7. La gestion des contentieux électoraux. En rapport avec la révision du fichier électoral, les exigences suivantes sont à rappeler. L'obligation pour tous les électeurs, anciens et nouveaux, de se présenter à leur centre d'inscription pour acquérir la nouvelle carte d'électeur. L'établissement des centres d'inscription dans tous les groupements et toutes les communes. La nécessité de parachever le processus visant à conférer à certaines entités le statut des villes ou des communes et à fixer les subdivisions territoriales à l'intérieur des provinces. L'intérêt de procéder rapidement à une nouvelle codification des entités décentralisées et déconcentrées. À propos du cas cadre légal du processus électoral, que la question liée à la réforme électorale annoncée soit traitée dès le début de la prochaine session parlementaire pour rendre compatible sa matérialisation avec le chronogramme électoral. Que l'annexe à la loi électorale portant sur la répartition des sièges soit adoptée à l'issue de la révision du fichier électoral. Quant aux questions financières et logistiques, l'intérêt institutionnel a décidé de l'adoption et la mise en œuvre du plan de trésorerie 2010 permettant la réalisation de l'opération de révision du fichier électoral dans un délai compatible avec les exigences du calendrier. De l'adoption d'un budget global couvrant tous les cycles électoraux allant des opérations préélectorales aux élections locales.
Professeur Jean-Louis Sambo, je rappelle que vous êtes directeur de cabinet adjoint du vice-premier ministre en charge de l'intérieur et de sécurité. L'émission est pédagogique, vous le savez. Commençons par cette question qui se pose toujours quant à cette réunion interinstitutionnelle. Quelle est la valeur juridique finalement que l'on peut accorder aux décisions issues de cette réunion?
Merci pour la question que vous posez. Je voudrais tout de suite dire que la réunion interinstitutionnelle a été instituée simplement pour assurer une certaine synergie entre les différentes institutions de la République, de manière à ce que si un certain nombre de questions se posent au niveau de la gestion des affaires publiques dans notre pays, qu'autour des chefs de l'État se retrouvent les responsables des institutions pour discuter sur ces questions-là et proposer des voies de sortie aux problèmes qui pourraient être soulevés. C'est dans ce cadre-là qu'il faut situer la réunion ou les réunions interinstitutionnelles. Sans doute, on peut discuter sur l'existence constitutionnelle d'une telle structure, mais l'important, me semble-t-il, à la suite de la situation que le pays a connue et envie de favoriser une certaine stabilité politique, il était tout à fait indiqué qu'une telle structure puisse voir le jour de manière à ce qu'elle discute sur les questions d'importance capitale dans notre pays. Et je pense que, jusqu'à présent, les réunions interinstitutionnelles ont dans l'ensemble réfléchi sur les questions qui concernent notre pays et les solutions qui ont été envisagées, mais semble-t-il rencontrent l'assentiment non seulement de l'ensemble de la classe politique, mais aussi des citoyens qui souhaitent voir le Congo être régi en tenant compte de certains paramètres, notamment la stabilité politique et institutionnelle.
Mais pourquoi le gouvernement ne pouvait-il pas simplement endosser ces décisions?
Non, écoutez, l'interinstitutionnel fait de recommandations aux différentes institutions. Et par rapport à la dernière réunion dont vous faites état tout à l'heure, il y a des recommandations qui s'adressent au gouvernement, notamment en ce qui concerne l'aspect budgétaire des élections. Il y a des recommandations qui s'adressent au Parlement en ce qui concerne la révisitation, notamment du cadre légal pour les élections. Il y a des recommandations qui s'adressent à la Commission électorale indépendante et qui va pouvoir être émue en Commission nationale en CNI. Donc, je ne crois pas que ce soit le seul gouvernement qui puisse être intéressé par les décisions ou les propositions de l'interinstitutionnel. Ce sont les différentes institutions qui sont concernées.
Alors, cette réunion, on l'a dit, a débouché sur la décision de la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Qu'est-ce qu'on entend par délais constitutionnels?
Je voudrais préciser que ce n'a pas été une décision, si vous avez bien le communiqué du vice-premier ministre mis en charge et intérêt de la décentralisation. C'est à la suite de l'état de lieu présenté par le président de la Commission des droits indépendants que l'interinstitutionnel a pris acte et a souhaité que ce qui a été dit par le président de la CI puisse être exécuté dans les délais qui soient compatibles au calendrier électoral. Bon, en ce qui concerne plus précisément la tenue des élections dans le délai constitutionnel, il vous souviendra que déjà sous le plan constitutionnel, l'élection du chef de l'État devra pouvoir se tenir avant la fin du mandat du président, alors en exercice. Et donc si les élections à ce niveau ne sont pas organisées, on se trouvera devant une situation qu'on serait difficile à expliquer, en même temps que l'élection des députés nationaux, des députés provinciaux, des sénateurs, des gouverneurs, il y a un mandat que le peuple a conféré à ses responsables de notre pays et qu'il va falloir que ces élections se tiennent avant que ceux-ci n'arrivent à terme de leur mandat, sinon à ce moment-là, il y aurait un problème de légitimité et ça serait difficile à gérer sur le plan juridique.
Alors ce sera avant décembre 2011 ou c'est par rapport au Sénat qu'on...
Vous vous souviendrez que pour les élections de 2006, l'élection présidentielle a eu lieu pour le premier tour avec l'élection des députés nationaux. Et donc, il va de soi que l'élection du président de la République doit se tenir avant le 6 décembre 2011. Donc le premier et éventuellement le second tour doivent être tenus avant cette date-là.
Maître Moïse Nyarugabo, vous êtes sénateur et membre du RCD. Dans l'allocution du président de votre parti, Maître Roubaix-Roy, par rapport au 12e anniversaire du RCD, hein, il a évoqué notamment des craintes sur la tenue de ces élections.
Oh, bien sûr, déjà à suivre clairement le discours du vice-premier ministre Lumani, qui donne les exigences, les choses à faire qui ne sont pas encore faites, eh bien, il y a lieu de comprendre qu'ils sont en train de nous préparer. Mais avant de répondre à cette question, c'est quand même important de revenir sur le problème de cet organe interinstitutionnel anticonstitutionnel. Continuer à utiliser cet organe qui n'est prévu nulle part, qui pouvait servir simplement de consultation. Je comprends qu'on veuille qu'il y ait de l'harmonie, mais qu'on en fasse un organe qui commence à distribuer des décisions à toutes les institutions constitutionnelles, on est déjà sur une mauvaise pente. Et je pense vraiment que le président de la République devait revoir cette façon de conduire les choses. Parce que finalement, une réunion où se trouve le président de la République, le premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et d'autres, lorsque même une recommandation sort d'une réunion d'un tel format, pour l'opinion et pour le commun des mortels, c'est la plus haute instance, alors que c'est une instance qui n'existe que dans l'imagination de ceux qui la composent, de ceux qui la convoquent. Donc, je crois qu'on doit faire attention sur ça. Et au sujet des difficultés, c'est tout à fait évident. Monsieur le journaliste, ça fait 3 mois que la révision du fichier a commencé au Bas-Congo. Et le Bas-Congo, c'est parmi les provinces les moins peuplées, mais aussi les moins larges. Et on vient de faire 3 mois, c'est depuis le 16 mai, si je m'abuse. Bientôt là, ce sera le 16 août, ça va faire 3 mois. J'ai appris que le gouvernement du Bas-Congo et les députés provinciaux du Bas-Congo viennent de demander à la CI encore 45 jours. Donc ça va faire 4 mois et demi pour le Bas-Congo. Lorsqu'on va arriver aux provinces comme la province orientale, comme l'Équateur, comme les autres, combien de temps ça va prendre? Si on doit suivre le même rythme, je crains qu'on arrive à 2013 avant qu'on ait fini la révision du fichier, surtout qu'on retombe à zéro l'enrôlement. Ce n'est plus pour ceux qui ont atteint l'âge de 18 ans dans l'entretemps, ce n'est plus pour ceux qui n'ont pas pu se faire enrôler. C'est tout le monde. Donc on reprend l'enrôlement à zéro. Avec ça, il y a lieu de se demander si effectivement le fameux délai constitutionnel va être respecté. Nous avons des inquiétudes. Sauf si la CEI et le gouvernement ont une baguette magique qu'ils vont utiliser pour que d'ici 8 mois, on ait fini la révision du fichier électoral et qu'on ait préparé toutes les autres opérations électorales.
Il y a une auditrice, sénateur Nyarugabo, Aline Rizi qui mangeait d'environ sur Kivu, qui dit « Je me demande si cette réunion interinstitutionnelle avait tenu compte des aléas qui peuvent surgir pour que nous ne puissions pas connaître le report des élections comme c'était le cas de 2006, car le peuple congolais est vraiment impatient de corriger les erreurs commises lors des précédents scrutins. »
Elle a totalement raison. Regardez, monsieur le journaliste. On nous dit, Malumalu lui-même dit qu'on a besoin de 700 millions de dollars pour organiser les élections. Si je ne m'abuse, c'est seulement au cours de cette année, du budget de l'année en cours, que, au niveau du Sénat d'ailleurs, quand le budget venu du gouvernement, rien n'était prévu pour les élections, on a mis de côté ce qu'on 20 millions. Alors, de 20 millions, l'année prochaine, on va trouver où les 680 millions, même si la communauté internationale prenait la moitié ou plus de la moitié. Déjà, la partie qui va revenir au gouvernement congolais, où est-ce qu'on va avoir 300 ou 400 millions de dollars, si déjà, au cours de cette année budgétaire, nous avons mis de côté que 20 millions. Donc, il y a beaucoup d'autres éléments, beaucoup d'autres aléas, beaucoup d'autres problèmes au sein. J'ai bien dit, je me réserve de confirmer ou d'affirmer peut-être que le gouvernement et la CEI ont d'autres solutions qui n'ont pas encore annoncé.
Professeur Moïla Chiembe, vous êtes directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Vous avez suivi tour à tour le professeur Essambo et le sénateur Nyarugabo. Élection, pas élection, réunion interinstitutionnelle, anticonstitutionnelle. Quelle est votre analyse?
Oui, disons que le sénateur a raison de subir souligner le fait que cette fameuse réunion interinstitutionnelle n'est pas constitutionnellement établie. Il n'en demeure pas moins vrai que si le chef de l'État réunit les personnalités ou les représentants des institutions, quelques ministres, y compris le cas échéant, les représentants de l'Assemblée nationale ou du Sénat, ça suppose que le chef de l'État y attache une certaine importance. Évidemment, l'intérêt de la République serait que cette institution informelle soit formalisée en droit. Alors vous me direz que le chef de l'État ne fait pas des lois. Probablement, il va falloir, dans les jours ou dans les années à venir, essayer d'harmoniser cette question pour que ce soit vraiment une institution qui a qualité en droit, parce que cette institution ou cet organisme fait des recommandations aux institutions qualifiées, au gouvernement, à l'Assemblée nationale, au Sénat. Et évidemment, on peut se demander à quel titre et quelle est sa capacité au sens de moyens juridiques ou éventuellement de contraintes. Si le Sénat ne bouge pas, si le gouvernement ne fait pas de proposition de loi, qu'est-ce que cette institution peut faire? Donc ça reste une question, vous me direz, probablement purement juridique, mais on peut penser que dans les solutions de l'État, il s'agit là d'un, comment dirais-je, d'une institution chargée de coordination stratégique avec un rôle purement technique. C'est probablement dans cet esprit qu'il faut aborder la question. Alors, mais la question essentielle, bien sûr, qui découle de tout ce qui a été dit, c'est la question de l'applicabilité de ces recommandations au regard des griefs réels ou supposés, le problème des moyens, le problème de lenteur, notamment en ce qui concerne l'enrôlement dans la province du Bas-Congo. Et tout ceci laisse planer des doutes. Mais il est naturel, évidemment, que M. le sénateur ou les auditeurs puissent avoir des doutes. Le Congo est un pays qui s'achemine dans un processus démocratique. Il est naturel que les citoyens, quel que soit leur niveau de responsabilité, puissent avoir un œil critique sur la chose publique, ce qui est tout à fait naturel de critiquer le gouvernement, ou éventuellement de le harceler des questions ou d'interrogations pour éventuellement l'obliger à aller vite en besogne, c'est-à-dire à matérialiser ou ses souhaits ou ses décisions. Alors maintenant, la question de fond, c'est est-ce que le Congo a le moyen de tenir les délais constitutionnels? Bon, pour l'instant, on ne sait pas exactement où sont ces moyens, mais on peut peut-être faire confiance au gouvernement en espérant que, comme le chef de l'État a mis les pieds dans le plat, que ces moyens, s'ils ne sont pas encore mobilisés totalement, parce que c'est la première fois qu'il est dit qu'il s'agit là d'une question de souveraineté nationale. Donc c'est la première fois. Et il est fait appel au budget national pour pouvoir comment dirais-je, intégrer cette préoccupation. Donc, on peut de bonne foi espérer que, une fois encore, ce ne sont pas seulement de paroles, que le président de la République et l'ensemble des ministres de son gouvernement et de sa majorité se mobiliseront justement pour éviter ce vide de légitimité qui risquerait, s'il advenait que les élections ne se tiennent pas dans le délai, de mettre le pays dans une situation stratégique.
Merci professeur Essambo. Avant de vous redonner la parole, commençons par nous rendre au Bas-Congo où, à 3 semaines de la fin de l'opération de révision du fichier électoral, le gouvernement provincial sollicite une prolongation, demande qui s'explique par plusieurs difficultés d'ordre technique enregistrées au cours de cette opération, précise maître Nicolas Mabeka, porte-parole du gouvernement provincial du Bas-Congo, comme nous le dit Guy Rouginampala.
Parmi ces difficultés, le gouvernement provincial du Bas-Congo cite notamment la vétusté des kits d'enrôlement, la rupture des stocks désimprimés et le manque de carburant dans différents centres. Ces problèmes ont occasionné de nombreuses périodes d'interruption des opérations dans plusieurs bureaux d'enrôlement, notamment dans les territoires de Sekebanza, Songololo, Luozi, Mwanda et dans plusieurs centres de Matadi et de Boma. Maître Nicolas Mabeka a indiqué que le gouvernement provincial du Bas-Congo sollicite cette prolongation en vue de récupérer le temps perdu. Présent au Conseil des ministres provincial, le représentant de la CEI Bas-Congo a pris bonne note de cette demande. Notez que l'opération de révision du fichier électoral dans le Bas-Congo s'achève le 16 août prochain. Retenez que jusqu'au 21 juillet dernier, 1 125 000 personnes ont obtenu des nouvelles cartes d'électeurs sur un total d'1 800 000 électeurs attendus par la CEI. Ce nombre d'enrôlés est faible aux yeux du gouvernement et de l'Assemblée provinciale du Bas-Congo, raison pour laquelle le Conseil des ministres provincial a décidé également d'intensifier la sensibilisation de la population à ce sujet. Matadi, Dirozou Apala, Radio Kapi.
Professeur Sambo, parmi les 7 points énumérés par le vice-premier ministre Adolphe Lumanu, la révision du fichier électoral en ordre chronologique occupe la deuxième place et vous venez de suivre, le sénateur Nyarugabo y est revenu dessus. Beaucoup de problèmes au Bas-Congo, il n'y avait que 2 provinces pour l'instant, mais avec beaucoup de problèmes. Quelles sont finalement les garanties de l'application ou de l'applicabilité de ces recommandations?
Merci beaucoup. Avant de pouvoir répondre directement à votre question, je voudrais préciser un fait très important, c'est que au regard de la constitution de notre pays et de la loi en la matière, c'est la communauté électorale indépendante jusqu'à peu qui a en charge de l'organisation des élections et le gouvernement vient en appui à la communauté électorale indépendante. Et dès que cette commission électorale indépendante présente son cahier de charge, à ce moment-là, le gouvernement intervient par rapport à ce qu'il a comme pouvoir en la matière. Et ça, c'est très important pour que les gens le sachent. Ce n'est pas le gouvernement qui organise les élections, le gouvernement vient en appui à la structure chargée d'organiser les élections. Deuxièmement, en ce qui concerne les difficultés techniques, c'est vrai que ces difficultés sont prévisibles. Je voudrais, à l'intention de ceux qui nous suivent, indiquer ceci, et que à plusieurs reprises lors de réunions du comité de pilotage, qui regroupe notamment les principaux représentants de chancellerie qui sont intéressés à la question électorale dans notre pays, la commission électorale indépendante et le gouvernement, par l'entremise du ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, il s'est tenu, disais-je, plusieurs réunions sur lesquelles ou autour desquelles on a évalué le processus électoral dans notre pays pour voir les engagements des uns et des autres. Et à la dernière réunion, il a été fait état effectivement des difficultés qui trouvent la commission électorale indépendante dans le sens de la poursuite de l'opération de la révision du fichier électoral, notamment par rapport à ce que votre reporter a indiqué. Et c'est à la suite de cette réunion, justement, qu'il a été décidé par le BCPO et la CI, que l'on puisse confier ou attribuer le marché en ce qui concerne la délivrance de titres électoraux à la Société de droit belge GTS. Et celle-ci a pris l'engagement de pouvoir donner à la commission électorale indépendante 9600 kits et à ma connaissance plus de 4000 kits ont été déjà donnés à la commission électorale indépendante jusque ce matin 2000 kits sont arrivés et puis ce soir il devait y avoir 3500 kits qui devaient arriver mais compte tenu du calendrier tout au moins de l'horaire de la compagnie SN Bruxelles qui procède à ce convoi-là. Ce convoi est déjà reporté pour demain ou plus tard après-demain. Et à partir de Kinshasa, il y a le déploiement de tous ces kits électoraux à travers les provinces. Et je crois que par rapport à ça, les difficultés qui sont rencontrées au niveau de la province du Bas-Congo pourront être résorbées. En même temps, il faut préciser que le Bas-Congo fait partie de la première phase de la deuxième ère opérationnelle. Ère opérationnelle qui compte, en plus de la province du Bas-Congo, le Kasai occidental, le Maniema et le Katanga. Donc, je crois que par rapport à ça, le plus important, c'est un défi que les Congolais doivent relever de manière à ce que l'année prochaine ou à la fin de l'année prochaine, qu'on ne se trouve pas dans une situation de crise de légitimité. Il faut à tout prix que les élections se tiennent.
Alors, professeur, tenir les élections à tout prix, est-ce une réelle volonté d'organiser ces élections ou une simple préparation de l'opinion, comme a dit le sénateur, qu'elles n'auront finalement pas lieu?
Et une précision à ce sujet-là. Dès lors que le gouvernement, ou la CI partie du gouvernement, s'engage déjà dans l'opération de la révision du fichier électoral, dès lors qu'il est demandé aux partis politiques de pouvoir sensibiliser leurs militants et leurs membres à pouvoir s'enrôler, déjà on peut pratiquer de la volonté politique. Ça c'est clair. Deuxièmement, ce qui est intéressant et ce qui est indispensable, c'est qu'il faut éviter que nous soyons à la fin du mandat du président de la République, à la fin du mandat des députés et des sénateurs, nous soyons dans une situation de crise de légitimité. Sinon, ça nous fera rentrer en arrière. Ce qui est important, je comprends par rapport à la compression des délais, qu'il faut faire beaucoup de choses en même temps, mais il faut le faire bien. Et à ce moment-là, je crois que toutes les institutions doivent être impliquées par rapport à ça. Et vous avez suivi dans le compte rendu de la réunion interinstitutionnelle, il a été recommandé au gouvernement de pouvoir accélérer ou augmenter le budget, et le sénateur a bien raison de pouvoir s'inquiéter par rapport à ça. Il est aussi autorité budgétaire, je crois qu'il y verra. Je vais terminer par là, en précisant également qu'au niveau du Parlement, il va falloir, s'il y a lieu qu'on puisse réviser la loi électorale, et dans le communiqué de l'interinstitutionnel, c'est très important, M. le journaliste, il a été précisé que à la fin de la session prochaine, il faut qu'on adopte et la loi électorale éventuellement révisée, ainsi que les nombres de sièges revenant à chaque circonscription. Et à ce moment-là, il va falloir que l'opération de révision du budget électoral se termine avant la fin de la session parlementaire prochaine.
Sénateur Nyarugabo, vous réagissez aux propos du professeur Estambo, mais parmi les points qui sous-tendent ou qui soutiennent le scepticisme de Maître Roubaix-Roy sur la tenue de ces élections, il y a entre autres également le retard pris pour l'installation de la CENI.
Il y a plus grave, monsieur le ministre. D'abord, au sujet de la loi électorale. Je veux bien que cette loi soit votée, mais je m'insurge toujours contre cette façon d'une institution non constitutionnelle de continuer à distribuer le carton rouge. Dit avant la fin de cette session, vous devez faire de quel droit? Et puis, c'est le gouvernement qui doit préparer ce projet de loi, c'est le gouvernement qui conduit la politique de la nation. C'est ce gouvernement qui doit déposer. Est-ce qu'il a déjà déposé ce projet sur la table du Parlement? Non. De quoi on parle? Deuxième chose, la session de septembre est une session budgétaire. Pour vous montrer justement que nous sommes en train de... Je ne sais pas, c'est une session purement budgétaire. Bon, je vais voir avec quelle magie on va faire pour que, en plus du budget, on vote d'autres lois urgentes, comme la loi électorale et d'autres. Mais la question de la CENI, ce n'est pas simplement le retard de l'installation de la CENI. Il y a plus grave. Moi, je me demande, monsieur le journaliste, de quel droit la CENI fait ce qu'elle fait. La CENI est un organisme de droit public dont la dissolution était de plein droit. La CENI a servi à la Cour suprême pour qu'on puisse proroger la durée de vie, sa durée de vie. La Cour suprême a rendu un arrêt, que ce soit le 27 août 2007. Dans cet arrêt, la Cour suprême n'a jamais dit que la CENI va vivre éternellement. La Cour suprême a dit que le prolonger la durée de vie de la CENI pour des raisons de liquidation et pour parachever le processus électoral engagé en 2005. C'était sous-entendu que la CENI avait le temps simplement d'organiser les élections locales, urbaines et municipales. Voilà, de quel droit, sur quelle base, ce n'est ni la Constitution ni l'arrêt de la Cour suprême que la CENI organise les élections 2011. Je pense qu'on est en train d'aller de violation en violation. On ne voit plus où on va. On navigue à vue. Donc, il y a plus grave que le retard dans l'installation de la CENI. Il y a irrégularité, inégalité, inconstitutionnalité. Regardez, lisez l'arrêt de la Cour suprême. Vous allez trouver les phrases que je vous ai dites. Donc, c'est aujourd'hui combien il y a 2, 3, 4 jours, peut-être la semaine passée, qu'on a promulgué la loi sur la CENI, la loi sur laquelle nous avons aussi des choses à redire. Cette loi qui a été adoptée sur base de l'article 135 qui permet à l'Assemblée nationale de statuer définitivement sans tenir compte en fait des avis du Sénat, c'est de cette loi une loi avec beaucoup de lacunes, avec beaucoup de problèmes. Peut-être si on allait tomber et revenir. Donc, mais déjà, le retard dans l'installation de la CENI, qui devait être en train de faire ce que la CENI fait, aujourd'hui les cartes d'électeurs qui sont en train de sortir portent la marque CENI. C'est quoi ça cette histoire?
cette ambiguïté, cette dichotomie, ça veut dire quoi? Qui organise les élections 2011? Je crois qu'il y a des vrais problèmes de fond sur lesquels on doit d'abord s'appuyer, se prononcer, les régler avant d'avancer.
Alors, honorable, parce que vous parlez des problèmes que va susciter l'installation de membres de la CENI, donc là, ça va encore occasionner des retards, à vous comprendre.
Je suis convaincu. Déjà, le fait qu'on n'est pas tenu compte de ce que le Sénat avait proposé de revoir les nombres des membres de la CENI. L'Assemblée nationale n'a retenu que 7 personnes, dont 4 de la majorité, 3 de l'opposition. Je suis convaincu que pour choisir les 3 de l'opposition, il y aura des problèmes. Je suis convaincu que même pour la majorité, à l'intérieur de la majorité, pour choisir les 4 personnes, bon, peut-être que là, le président de la République va s'imposer, je ne sais pas, comme il est l'autorité morale, c'est ce que j'entends les amis de la majorité dire. Bon, en tant qu'autorité morale, celui qui va s'imposer, il va choisir ces personnes. Mais pour l'opposition, je suis convaincu qu'il y aura des problèmes, ça va prendre du temps. Mais au-delà de ça, n'oubliez pas que l'Assemblée nationale n'a pas tenu compte de la société civile, comme le Sénat l'avait proposé. Elle a exclu la société civile dans le processus. On a prévu un seul organe pour un organisme comme la CENI. Un organe qui conçoit, qui oriente, qui décide, qui gère, qui exécute, qui contrôle. Un seul, c'est du dossier.
Ça prête le plan à
la fraude et au désordre, justement, à l'impunité. Un seul organe qui conçoit, qui oriente, qui décide, qui exécute, qui contrôle.
Voilà, professeur Moïla Kiembe, il y a cet auditeur Philippe Masika de Collegio Katanga qui dit les décisions de cette réunion interinstitutionnelle sont vraiment vagues car aucune chronologie n'a été associée au calendrier des élections de 2011 et aucune évaluation financière n'a été faite dans ce sens. Est-ce que les Congolais peuvent vraiment espérer la tenue des élections de 2011 sans l'aide financière étrangère? Est-ce que, professeur, comme l'a dit le sénateur Nyarugabo, on ne serait pas en train de naviguer à vue?
À tout le moins, il faut dire que même si cet organe n'est pas qualifié en droit, ce n'est pas un conseil des ministres, ce n'est pas l'Assemblée nationale ou le Sénat qui a voté une loi ou initié une loi, mais dans la mesure où le président de la République l'a présidé et qu'il a été rendu public la volonté de faire quelque chose, indépendamment des difficultés qu'il ne faut pas minimiser, je pense qu'on peut de bonne foi, d'ailleurs ce qu'il dit le sénateur est dans la logique même de ce qu'un élu peut dire, c'est-à-dire il faut mettre la pression sur le gouvernement, mettre la pression sur l'institution qui est chargée de l'organisation des élections, montrer les lacunes avant même que les problèmes ne se posent pendant ou après les élections, parce qu'il est de l'intérêt du pays, si on veut aller à des élections libres, démocratiques, transparentes, avec les résultats respectables, c'est maintenant qu'il faut soulever les difficultés pour essayer de les aplanir avant que ce ne soit trop tard. Donc par conséquent, la question financière, le président de la République, du moins dans le compte-rendu dont nous venons de parler, en a fait allusion, et on peut espérer, messieurs les sénateurs, et parmi ceux qui sont associés, les élus qui seront associés au vote de plusieurs, là, dans un mois et plus, évidemment, si tout ce beau monde est mobilisé dans les conditions de moyens disponibles, pourquoi pas une session extraordinaire compte tenu de l'urgence pour mobiliser les deux chambres du Sénat et de l'Assemblée nationale et mettre tout le monde au travail d'une manière urgente, mais sans confondre la vitesse et la précipitation, bien entendu, parce que si tout est bâclé et qu'on a de là ce qu'elle rate, on risque alors, à ce moment-là, d'alourdir l'organisation des élections, les contestations, le contentieux électoral, etc. Donc, on peut dire concrètement qu'il y a des difficultés qui ne sont pas dissimulées, mais là où il y a la volonté, il y a un chemin. Si vraiment le Parlement est déterminé, si le gouvernement est déterminé, si le président de la République est déterminé, si la CENI est déterminée, c'est-à-dire qu'elle est organisée conformément aux lois et la communauté internationale qui a toujours soutenu le Congo, on peut penser que les choses peuvent être accélérées. Par exemple, moi je ne comprends pas, beaucoup de Congolais ne comprennent pas d'ailleurs, pourquoi la société belge qui a été choisie pour organiser les kits, donc les fournir la logistique, pourquoi faut-il commencer
par une province attendent que nous sommes dans un monde moderne. Aujourd'hui, avec les technologies modernes, on peut commencer au même moment dans l'ensemble des pays. Si cette société belge n'a pas la capacité technologique de le faire, ben il est bon pour changer la méthode, donner le contrat à une autre société ou associer notre société. Ça peut aller très vite. Et même, pourquoi ne pas profiter de la banque de données de la CI, même si les taxes sont annulées pour tout le monde? Pourquoi ne pas partir des cartes, pardon, des banques de données qui existent, distribuer au moins des cartes à ceux qui ne sont pas morts et qui sont vivants, et laisser le contentieux, ou tout au moins se préoccuper pour ceux qui n'avaient jamais participé à l'enrôlement, et ceux qui, pour des raisons de mort et autres, peuvent aussi avoir besoin de renouveler leurs documents. À ce moment-là, on peut aller vite. Mais si on a une société qui n'a pas de capacité pour faire le travail et qu'on doit attendre comme dans l'époque médiévale, aller province par province avec le temps qui reste, il y a de quoi rendre tout le monde difficile, évidemment.
Professeur, il y a des auditeurs qui nous écrivent, hein, Outaï Babi de Bouillon en province orientale, la tenue des élections dans le délai constitutionnel est le vouloir de toute la population congolaise, mais à l'allure actuelle, cela semble être une distraction, car jusqu'à maintenant, rien ne nous montre qu'il y aura élection à tous les échelons dans l'intervalle de 10 mois. Morlaï Tsoma de Kisangani en province orientale encore, cette réunion interinstitutionnelle a coupé court aux rumeurs faisant état de la modification du mandat du président de la République. Célestin Mumbinde de Kananga au Kasai occidental, la décision de cette réunion interinstitutionnelle est à saluer, mais les gouvernements doivent savoir lier l'acte à la parole pour aider la jeune démocratie congolaise à devenir majeure, professeur.
Oui, je pense qu'il y a là un besoin réel des citoyens, non seulement de secouer le cocotier, c'est-à-dire partir même des engagements constitutionnels du président de la République et de son gouvernement, pour lui dire, ben voilà, il ne reste pas beaucoup de temps. Si on ne veut pas retomber encore, comme le conseiller l'a dit tout à l'heure, dans un vide juridique, et c'est-à-dire l'absence de légitimité du pouvoir, ça ramènerait le pays encore dans des périodes que personne ne souhaite voir demain. Donc par conséquent, il est urgent, non seulement que les choses soient dites, même si on peut penser qu'il y a des arrière-pensées, on peut attribuer au gouvernement peut-être la démarche qui consiste à dire on en parle, plus on en parle, moins on en fait. Mais il ne faut pas rester dans la démarche négative. Souhaitons tous, ici, pour les Congolais de l'étranger comme au pays, que le gouvernement prenne à bras le corps cette question et l'échéance constitutionnelle, que les moyens réels soient mobilisés, à la fois les moyens internes de l'État, y compris les moyens de ses partenaires extérieurs, que l'Assemblée et le Sénat soient mobilisés, que le gouvernement, à l'initiative de loi, les freine d'une manière rapide. S'il y a une mobilisation de tout le monde, on peut le faire. Ce n'est pas impossible. Mais si on se contente seulement de la parole, à ce moment-là, on risque d'aller vers les déconvenus, évidemment.
Merci, professeur. Professeur Estambou, il y a d'autres auditeurs. André Bine de Bukavu, Sud Kivu, je suis content qu'on pense à l'organisation des élections de 2011 et nous espérons que nos dirigeants respecteront le délai imparti, c'est-à-dire 2011. Robert Baumé de Bukavu également, la décision de la réunion interinstitutionnelle sur l'organisation des élections en 2011 est à saluer, mais à cette échéance électorale, sera-t-on réellement prêt? Si oui, quelles en sont les garanties?
Avant de répondre à votre question, je voudrais faire deux mises au point sur la question de la réunion interinstitutionnelle. Ensuite, par rapport à la question de la loi électorale qui pourrait être révisée, parce qu'il a été dit tout à l'heure là que la session qui va arriver est une session essentiellement budgétaire. D'abord, en ce qui concerne la réunion interinstitutionnelle, tout le monde convient que la réunion interinstitutionnelle n'a pas un caractère constitutionnel, mais elle est tout de même utile pour l'organisation de la société congolaise à la suite de ce que notre pays a connu comme difficulté à caractère politique, et je ne crois pas que les recommandations issues de cette réunion soient considérées comme des décisions. Je n'ai pas vu l'Assemblée nationale et le Sénat se soumettre à deux recommandations faites antérieurement par rapport aux recommandations actuelles, et donc de ce point de vue-là, il n'est pas assez vrai de considérer que ce qui est issu de la réunion interinstitutionnelle serait des décisions imposables aux institutions constitutionnelles. Si l'on estime qu'après d'ailleurs bilan que la réunion interinstitutionnelle pourra être formalisée, et je ne crois pas que ça soit un mal que cela puisse l'être. Mais je précise que la réunion interinstitutionnelle ne prend pas de décision et je ne vois pas une institution constitutionnelle qui ait subi l'influence d'une décision qui aurait été prise par cette réunion interinstitutionnelle. Deuxièmement, en ce qui concerne la loi électorale, je sais que la session de septembre est essentiellement budgétaire, mais je suis d'avis que on peut y discuter d'autres matières qui ne sont pas essentiellement budgétaires, notamment par rapport à la procédure même de l'élaboration de l'adoption de la loi budgétaire. Je ne crois pas que le Sénat et l'Assemblée nationale auront été saisis au même moment pour discuter du budget de l'État, et donc il est possible que le gouvernement dépose son projet de loi révisant la loi électorale à l'une ou l'autre chambre, quitte à ce que dès que celle-ci aura terminé l'examen de cette loi, de pouvoir la transmettre à la seconde lecture, à la deuxième fois. Donc, de ce point de vue, il ne pourra pas avoir une difficulté d'avoir une loi électorale qui soit discutée en session budgétaire. Alors, revenons
très brièvement, professeur.
Très brièvement,
on vers le sein de l'émission.
Merci beaucoup. Je suis d'avis qu'il y a des difficultés qui sont évidentes, mais l'essentiel, il va falloir que les Congolais, ou qui se trouvent, qui se mobilisent pour que les élections se tiennent, il vaut mieux élaguer ou amenuiser les difficultés avant les élections que de les soulever après les élections, notamment au niveau du contentieux électoral.
Honorable Nyarugabo, vous êtes l'autorité budgétaire. Allez-vous cette fois-ci faciliter les choses au gouvernement pour qu'il organise finalement ces élections?
Peut-être on peut nous condamner d'avoir toujours facilité le gouvernement. On n'a jamais compliqué le gouvernement. Toujours, d'ailleurs, on vote le budget, généralement sans être convaincu, mais on le vote parce que le gouvernement le demande et estime qu'il ne peut pas avoir d'autres recettes, ainsi de suite. Sauf si on demande vraiment de compliquer le gouvernement, mais si, il faut lui faciliter la tâche, c'est tout ce que nous faisons tous ces temps. Monsieur le journaliste, j'espère que la bonne foi va nous aider à atteindre les résultats. Mais à la situation actuelle, si les gens doivent quitter Kipolo vers Makongunenge à 30 km à pied, ils passent la journée dans le Bas-Congo, ils passent toute la journée et la machine est en panne, le soir ils rentrent à la maison pour revenir le lendemain, et ainsi de suite, c'est comme ça que ça se passe, il n'y a pas de kit, ou les kits sont vêtus, les kits sont venus du Togo, il n'y a pas de carburant, et on vient de le dire par le gouvernement de la province, et des fois il n'y a pas de groupe électrogène. J'espère vraiment qu'avec le nouveau contrat avec cette société belge, les choses vont s'améliorer. Si c'est le cas, nous allons applaudir, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous souhaitons. Mais si ce n'est pas le cas, si le contrat qui a été signé avec la société belge ne règle pas toutes ces difficultés que nous avons au Bas-Congo, nous avons des inquiétudes. Quand on va arriver en province orientale, sur un bureau par groupement, c'est des centaines de kilomètres, ça va être difficile. Donc, il faut vraiment faire un effort. Et effectivement, il faut rencontrer ce problème maintenant.
Conclusion, on aura là en un mot.
En un mot, nous espérons que le gouvernement va faire tout ce qu'il faut pour que nous ne puissions pas regretter ou rencontrer tous ces problèmes pendant les élections, pendant les opérations. C'est aujourd'hui qu'il faut rencontrer tous ces obstacles et les lever.
Professeur Moïla Chiembe, un mot en guise de conclusion également.
Oui, en un mot, on peut penser qu'il faut demander à tous les acteurs politiques congolais de partir sur la bonne foi, mais la bonne foi seule ne suffit pas. Il faut se donner les moyens technologiques nécessaires pour que toutes ces difficultés soient surmontées avant que les élections puissent avoir lieu.
Professeur Issambo, votre mot de conclusion.
Mot de la fin, je voudrais tout simplement dire qu'effectivement les défis sont énormes, il faut le relever, et puis pour relever ces défis, il faut la volonté, après la volonté, il faut l'action, et cela exige la combinaison de tous les efforts, ça m'appelle à la conscience de toutes les institutions pour que les élections soient une réalité et non pas un leurre.
Merci monsieur d'avoir participé à cette émission, Dialogue entre Congolais c'est terminé pour aujourd'hui, merci à vous chers auditeurs de votre attention, réalisation Guy Mathieu, assisté de Samuel Kachak, coordination rédactionnelle Philippe Lamondo, mise en monde Eddy Marquis, supervision technique Patrick Kiasongwa, présentation Alain Rousseing, bon suite au programme sur Radio Capital. Thank you.